paradis artificiel. Voilà, donc ils expliquent que beaucoup de bestioles se droguent de leur plein gré.
Je peux te couper juste une seconde. Ça me fait penser à la recherche scientifique sur les animaux il y a une trentaine d'années, où on disait l'homosexualité chez les animaux n'existe pas. Alors qu'en fait, aujourd'hui, on s'aperçoit que dans toute l'espèce animale, en fait, toutes les espèces animales, il y a des cas avérés de formes multiples de sexualité, d'homosexualité, d'hétérosexualité, même l'inceste est couramment pratiqué, par exemple, chez les bonobos, mais pas uniquement. Et là, on s'aperçoit aussi que finalement, les animaux consomment aussi des substances psychotropes et que l'humain est un animal aussi, comme social certes, mais comme les autres, qui consomme aussi des drogues.
Donc,
ou des substances.
Il rappelle toutes les charmantes scènes qu'on trouve dans de débauche animale, avec aussi bien des fruits fermentés, donc de l'alcool bien sûr, du chanvre indien, de l'opium, des fruits du pavot, de la cocaïne et de la coca, et des champignons hallucinogènes bien sûr, donc sur tout ça quoi, dont on voit les animaux se goinfrer.
Ouais.
Et puis sinon, il y a une autre étude, plus étrange. C'est quelqu'un qui s'amusait à photographier des ours, et surtout des ours voleurs, qui venaient prendre des bidons de kérosène pour en sniffer les vapeurs. Et le troisième article, ou la troisième référence, c'est aussi assez rigolo, c'est les comportements des singes complètement bourrés. Et on retrouve totalement les humains, parce que certains deviennent agressifs, d'autres libidineux, d'autres se trouvera très très drôle, et l'autre deviendra tout au contraire totalement triste et qui se mettra à pleurer, voilà. Donc j'exagère un petit peu, mais on se croirait dans une fête humaine. Voilà un petit peu pour revenir sur cet article qu'il y avait donc dans le canard du 12 août.
Ah oui, d'accord.
Vous faites un petit rappel de ce qu'on en avait parlé la semaine dernière.
Oui, je me rappelle, je ne savais pas que c'était le 2 août, mais ouais, c'est génial quoi. Le 2 août ?
Le 12.
Ah, le 12, oui. Parce que le 2 août, c'était un dimanche. Alors. Oui, je me rappelle dessus. Par hasard. Mais bon.
Et sinon, comme je suis dans le canard souvent, en tant que je suis dessus, il y avait une toute petite brève qui est signée Jérôme Canard d'ailleurs. Est-ce qu'ils disent qu'on en apprend bonne aussi en Corée du Sud ? Où depuis les 5 premiers mois de l'année, la police a arrêté 2438 personnes en lien avec la drogue, et surtout c'est surtout évidemment des pilules, les amphétamines qui se consomment là-bas. Et a priori 90% de cette drogue viendrait de la Nord-Corée, où il y a un service, le bureau 39, qui travaille à fournir la drogue à la Corée du Sud. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur la Corée. Et j'ai trouvé que c'était quand même assez marrant. Donc on doit cette petite brève à Jérôme Canard, qui nous dit, après ça, on ne dira pas que la Corée du Nord n'est pas encore entrée dans l'ère du moderne.
Voilà, après cette petite introduction, eh bien, on va écouter un peu de musique et on revient tout de suite après cette courte pause musicale, à tout de suite.
Et on va écouter Shockboard, l'album qui s'appelle Black Black, ça date de 98, le morceau c'est Sad Getting Sadder.
Donc retour à l'actu, donc avec pas mal de cannabis thérapeutique médical aujourd'hui, comme on disait un peu en intro de cette émission. Alors avant de... Oui, enfin avant non, tout de suite maintenant, on va s'intéresser donc à quelques articles. Un article de l'Alsace qui nous parle donc de Bertrand Rambaud, dispensé, condamné, mais dispensé de peine. On va parler un peu de Jérôme Tétaz qu'on connaît bien au cirque, parce qu'il a été le premier président de la première association de cannabis thérapeutique, avant même UFCM et compagnie, là, qui était président de comment elle s'appelait l'émission déjà? Ah, j'ai oublié.
L'association, tu veux dire?
Oui. C'est pas possible.
Oui, c'est un trou.
Bon, bref, peu importe. On va parler aussi de Sébastien Begri, qui a aussi été jugé, condamné et dispensé de peine à Marseille, un article du Midi Libre. On ira aussi au Canada parler un peu au Mexique, voir un peu le cas de Graciela, 8 ans, qui pourrait devenir la première consommatrice légale de cannabis au Mexique, cannabis thérapeutique. Et on finira, on ira aussi au Canada et un peu en Australie. Voilà, un peu pour tout ce qui est cannabis thérapeutique. On va commencer tout de suite d'abord.
Voilà, puis on va faire ça assez rapidement hein, sur tous ces articles, parce que bon, ils ont tous le même...
Même thème, c'est ça que tu voulais
thème,
dire.
Oui. Ah, tout à fait. D'ailleurs, la semaine dernière, on avait un autre... On en avait un autre, mais parce que là, je ne suis pas sur le même. Sur lequel, je suis sur Laurent Puisset, donc c'est aussi un autre, mais ça, c'est la semaine dernière.
Oui, on en a parlé la semaine dernière, oui. Mais voilà, il y en a eu plusieurs ces dernières années, et ce qui est bien, c'est que quand même les cours dans les tribunaux sont quand même sensibles à la spécificité des patients, et notamment au fait qu'ils utilisent du cannabis pour leurs vertus thérapeutiques. Et que donc, bon, ils en tiennent compte, même si ça ne les empêche pas à chaque fois de rappeler la loi et que c'est interdit, blablabla. Mais bon, bref, du coup, voilà, on va parler tout de suite de Bertrand Rambaud. Bertrand Rambaud, donc, il a 54 ans, il vit à Schiltigheim, près de Colmar, en Alsace. En avril 2014, il était à Strasbourg, il se promenait, et il avait eu la merveilleuse et mauvaise idée de se promener avec un t-shirt où dessus il y avait une feuille de cannabis. Et donc voilà, aujourd'hui encore en France, si vous avez une feuille de cannabis sur un de vos t-shirts, ben, ça peut légitimer une arrestation en pleine rue. Et c'est ce qui lui était arrivé. Donc bon, il s'était un peu démerdé pour cacher un peu ce qu'il avait chez lui, parce que c'est ses médicaments, hein, ce qu'il a chez lui, ses herbes et tout ça. Donc il avait donné une mauvaise adresse. Bon, finalement, ils sont allés chez lui, ils avaient retrouvé une vingtaine de plants, 600 grammes de cannabis sous diverses formes. C'est ce qu'il disait, voilà, il avait dit ça à la justice, hein, je voulais protéger mon médicament, parce que c'est comme ça que je l'utilise et je ne suis pas sous l'emprise d'une quelconque ivresse, c'est pas pour m'amuser. Et je défends le cannabis à destination thérapeutique, avait-il dit. Alors il faut savoir quand même qu'il est c'est une personne qui vit avec le VIH, qu'il a aussi une hépatite C, donc il est co-infecté. Donc ça nécessite des traitements médicaux relativement lourds avec des effets secondaires. Et qu'il est quand même séropositif depuis 1984, donc ça fait 31 ans. Voilà. Faut saluer quand même ça, parce que c'est un des rescapés des vagues de contamination dans les années 80 au VIH, et il est toujours en vie, c'est beau. Hein. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé dans les tribunaux? Qu'est-ce qu'il a été décidé? Donc la Cour a estimé qu'il n'était pas exposé au moment des faits à un danger actuel ou imminent qu'il menaçait, mais à un danger futur. Donc quand même, ils ont connu ça. Mais bon, voilà, il a été condamné, mais dispensé de peine pour avoir utilisé du cannabis thérapeutique. Tout comme Sébastien Begri à Marseille. Alors, attendre un peu ou on parle tout de suite de Sébastien Begri, peut-être.
Juste, donc là, lui, il est passé donc deux fois en procès. Hein, il y a eu même trois fois, puisqu'il était en appel le 18 juin dernier. Et là, c'est la. Non, il est passé en procès le 18 juin dernier, et là, c'était l'appel.
Voilà.
Et donc, l'appel a confirmé la peine, la sentence, hein, condamnant coupable d'usage même thérapeutique mais le dispensant de peine.
C'est pas tout à fait ça pour la chronologie de fait. En fait, il a été jugé une première fois le 16 juin 2014 et le 18 juin dernier, c'était l'appel et là, c'était le verdict.
D'accord.
Voilà, pour être plus exact. Bon, ça,
tout à fait, il me semble bien que c'était mais... déjà voilà. La troisième fois.
Ouais. Non, c'est bien la deuxième fois.
D'accord.
Mais bon, voilà, entre le moment où il y a eu le jugement le 18 juin et le rendu, là, dernièrement, il s'est passé plusieurs mois, quoi. Mais tant mieux, c'est bien. C'est-à-dire qu'au moins, la justice a réfléchi au lieu de rendre la décision une semaine après et de le condamner. Ils ont fait un peu plus. C'est une bonne chose. C'est au mieux, des fois, que la justice soit lente.
Voilà.
Voilà, parce qu'au moins, elle réfléchit. Pas mal. Ouais, ça évite de donner des peines pourries, quoi.
Voilà, ils ont fait pareil, donc, justement, à Marseille. Puisqu'on est dans la justice autant finir, et puis c'est un peu la même association.
C'est la même.
C'est Sébastien Bagri.
Lui, c'est le vice-président. Bertrand Rambaud, c'est le président.
D'accord, lui, qui est beaucoup plus âgé, 54 ans. Et lui, plus jeune, donc 31 ans.
Voilà. Un peu. Et donc, il était poursuivi pour détention et usage à son domicile marseillais de 19 plants de cannabis, dont il avait plaidé un usage thérapeutique. C'est aussi Monsieur Bégré, un entrepreneur et un inventeur qui a inventé la cigarette électronique au chanvre, le Canavap. On en avait entendu parler cet hiver au début du mois de décembre. Il avait souhaité mettre ça sur le marché et puis finalement la ministre de la Santé, Marisol Touraine, avait menacé de le poursuivre en justice.
Sous un prétexte assez marrant, hein, c'était pour usage
fallacieux,
illégal de la pharmacie.
Oui, en plus.
Ce qui est assez excellent, c'est que ce serait que reconnaître que le cannabis est un médicament, du coup.
ça fait vraiment penser à ça.
On est vraiment sur des trucs qui marchent sur la tête.
Ouais, et puis en plus, son canavap, là, en question, il n'y avait absolument aucune substance psychotrope dedans, quoi. Il n'y a pas de THC, quoi. Mm. En plus, donc... C'est comme si vous vapotiez, quelque chose à l'eau de rose ou j'en sais rien, ou un parfum quelconque. Là, c'était cannabis, mais ça n'avait pas du tout de propriété psychotrope. Bref. Donc, Monsieur Bégri a été dispensé de peine. Voilà. On peut expliquer quand même. Hein, voilà. Lui, il utilisait le cannabis à des fins thérapeutiques parce qu'il souffrait de deux pathologies, des troubles de l'attention avec hyperactivité et une bipolarité.
Plutôt des maladies psychiques.
Ouais, hein, plutôt des maladies psychiques, ouais.
Et on sait que ça fonctionne pour pas mal d'entre elles, hein, surtout dans les chocs post-traumatiques.
Donc, il s'est trouvé qu'il a fait des études sur les plantes. Où est-ce que j'ai vu ça? Oui, un master 2 en sciences des plantes aux Pays-Bas, voilà. Et en retour en France, et il avait été traité avec du cannabis à visée thérapeutique là-bas, il a trouvé que ça lui faisait du bien. En retour en France, il a repris des médicaments, donc la solution chimique, et là, il s'est retrouvé mal, et il s'est dit, on a fait de moi un zombie. Son avocate cite même son père qui disait que le voyant prendre des médicaments, il l'a vu dépérir petit à petit et que visiblement le cannabis lui faisait du bien par rapport au cachet, quoi. Alors il avait quand même Monsieur Bégri a quand même fourni au tribunal des ordonnances de médecins luxembourgeois, français, hollandais qui lui prescrivaient du cannabis médical. Le procureur avait requis 15 jours de prison avec sursis. Bon, 15 jours, hein, c'est fou. Autant de rien donner, quoi, je comprends pas. Enfin bon.
Parce que le tribunal a décidé. Hein.
Le procureur, je cite, il ne s'agit pas de ne pas prendre en compte la maladie, on peut exprimer de la compassion, mais en l'état du droit positif, l'usage du cannabis, quels qu'en soient les motifs, demeure interdit en France. Alors, on nous parle dans cet article du fameux Sativex qui existe, mais qui est toujours pas accessible sur le marché pour des raisons administratives, on en a déjà parlé plusieurs fois. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bon, on a tout dit, hein, après dans l'article, on reparle du canavap. Bon, on a parlé en début d'article, voilà, un peu pour Sébastien Bégri, donc condamné et dispensé de peine. Et moi, je dis que ça, c'est bien, quand même. C'est une bonne nouvelle,
c'est quand
que
même
soit
bien.
Pour Bertrand ou pour Sébastien. Voilà un peu ce qu'il en était au niveau de la justice. Et puis un article que j'ai trouvé même quasi surprenant, un article dans le Dauphiné, un tout petit article à propos de notre ami Jérôme Tétaz. Et là, il est en photo avec sa maman dans le Dauphiné. Prisam, Voilà, c'est ça, j'ai retrouvé le nom de l'association que présidait Jérôme Tétaz au début des, à la fin des années 90. L'association PRISAM, qui était une association, j'ai envie de dire un peu comme UFCM aujourd'hui.
Oui, d'usagers.
D'usagers du cannabis thérapeutique ou un peu comme principe actif. Donc avant même que toutes ces associations existent et snobent le cirque avait initié l'existence d'une association comme PRISAM. J'aime toujours bien rappeler ça quand même, hein, pour quand même qu'on se rende bien compte que chronologiquement, voilà, UFCM et tout, très bien, hein, je veux dire, mais bon, ils ont rien inventé. Et donc là, un article de Jérôme Tétaz, enfin, on voit Jérôme Tétaz et sa maman, où en fait, qu'est-ce qu'elle raconte, sa maman, que ben, c'est difficile quand on est handicapé de faire toutes les démarches avec, avec les administrations, avec la CAF, pour déjà, bon, que le handicap soit reconnu et qu'on puisse toucher les prestations sociales. Et elle dit quand même, sa maman, bah, aujourd'hui ça va mieux, le dossier de Jérôme, mon fils, donc, a été instruit, nous sommes maintenant tranquilles pour 5 ans. Parce que quand la maison des personnes handicapées donne une décision, des personnes, oui, ça marche 5 ans. Donc là, bon, pour 5 ans, ils ont eu le renouvellement de la reconnaissance du handicap. Je pense que c'est ça, hein, je me trompe peut-être, mais à mon avis, ça me fait penser à ça. Elle dit comme ça, voilà, ça a marché pour moi, car j'en ai parlé dans la presse, j'ai alerté les élus, j'ai fait du bruit, mais comment font les autres ? Ben, les autres galèrent, grave. Donc elle s'interroge. Et Madame Tétaz, donc à Montricher-Albane, en Maurienne, hein, c'est là-bas, hein, a reçu beaucoup de mails et beaucoup de coups de téléphone. Elle dit, il y a eu des personnes étonnées par ma colère. Ils pensaient que l'on ne payait rien pour le handicap de Jérôme. Il y avait aussi beaucoup de personnes confrontées aux problèmes administratifs. Devoir prouver que l'on est handicapé, justifier que l'on a besoin de cet argent, montrer qu'on n'est pas des profiteurs. Et ouais, c'est lourd, ben oui. Quand on se bat contre la maladie, c'est difficile de se battre contre l'administration et le regard de gens, des gens. On a l'impression de ne faire que ça, se battre. Jérôme est quand même atteint d'une myopathie facio-scapulo-humérale. Voilà le terme exact. Et Jérôme, depuis une vingtaine d'années maintenant, utilise le cannabis à des fins thérapeutiques. Et alors ce qui est dingue, c'est dans cet article, on parle à aucun moment du cannabis pour soulager Jérôme, alors que c'est un gars qui s'y connaît vachement bien en cannabinoïdes, certainement l'un de ceux qui s'y connaît le mieux en France, d'ailleurs. Quelqu'un qui a fait avancer les choses au niveau de l'utilisation des cannabinoïdes au niveau médical. bref, voilà, une mine de connaissances et d'informations, Jérôme Tétaz, donc, dont, voilà, qu'on a pu voir dans le Dauphiné c'était quoi un article? Ah, c'est un article qui n'est pas tout neuf, c'est vrai, oui, j'avais oublié de vous le dire. Un article qui date de quand même il y a 3 ans. Mais bon, voilà, on voulait quand même le remettre dans cette revue de presse d'aujourd'hui pour montrer que, ben, en plus, ça met du temps à avancer tout ça. Ce qui est pas bien nouveau. Mais bon, voilà, donc, et ben, Jérôme, il se bat toujours contre la maladie d'abord et aussi contre l'administration. Parce que, ben, voilà, comme je vous disais, tous les 5 ans, il faut faire les démarches et tout. Voilà. Bon, allez, on avance. On va maintenant parler, on va aller au Mexique. Très vite.
Tout à fait, on va
un article de l'Express.fr. Un article de l'Express.
Voilà, donc là c'est
Graciela.
Graciela, quelqu'un qui a 8 ans, qui est une toute petite jeune fille, donc qui elle a un problème, c'est l'épilepsie.
Oui, et puis pas l'épilepsie, genre tu prends une crise une fois par mois. Hein.
Oui, ça va jusqu'à 400 crises quotidiennes, quoi.
Combien ?
400 crises quotidiennes.
400 ?
400.
Alors du lever au coucher, elle a une crise d'épilepsie, là.
Bah, quasiment.
Ouais, ok,
non, ça fait beaucoup. Je vois ce qui est écrit. Pas hein, trop. C'est bon.
Oui, non, mais oui, 400.
Et donc, ils ont remarqué que Gras elle souffre donc d'épilepsie provoquée par le syndrome de Lennox-Gastaut. Donc, c'est encore un truc bizarre. Mais a priori, il pourrait, avec le calamidiol, arriver à faire quelque chose. Donc, son père se bat contre la justice. Mexicaine pour arriver à avoir ce médicament et a priori il aurait eu gain de cause.
Juste avant ça, tout ça, ils ont quand même fait des essais thérapeutiques, on va dire classiques.
Tout à fait, ils sont allés jusqu'aux USA pour voir comment ça se passe.
Traitement chirurgical et 19 traitements anticonvulsions pour tenter d'atténuer ses douleurs. C'est pas rien.
Oui, ils ont essayé plein de choses avant, oui, tout à fait.
Une radiochirurgie cérébrale aussi. Plusieurs traitements alternatifs. Bref, bon. ça marchait pas jusqu'à ce que...
Voilà, donc c'est une décision quand même judiciaire qui ouvre quelques petites choses. Hein. Donc, la petite fille vient de retirer la première brique du mur de cette absurde interdiction, estime donc un ex-député de gauche qui... Là, qui va là-dessus. Sinon, l'avocat dit « Diaboliser une plante est la chose la plus stupide qu'on puisse faire au XXIe siècle. » Voilà, des petites phrases qui sont marrantes et qui montrent donc, voilà, des petites batailles se gagnent en Amérique latine aussi sur la légalisation du cannabis qui est thérapeutique.
Alors, dans cet article de l'Express, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on nous parle aussi du cas de Charlotte. Alors, il y a eu pas mal de... comment dire, d'articles et de contributions qui ont circulé sur les réseaux sociaux ces derniers mois, parfois dans certains journaux ou blogs a priori peu sérieux. Et donc voilà, c'est le cas de Charlotte. Donc dans cet article de l'Express, hein, on nous parle aussi du cas de Charlotte, une petite fille du Colorado qui elle aussi a des problèmes d'épilepsie et... Là, on a pu la soulager grâce à de l'huile de cannabis. Alors, ses parents, le père a quand même parcouru 2000 km pour se rendre dans l'État américain où l'usage de la marijuana à des fins récréatives et médicinales est autorisé. Ils auraient pu dire dans les États, parce qu'il y en a quand même plus d'un. Merci, monsieur l'Express. Il est étonnant cet article. D'ailleurs, il y a une erreur là. Mais n'ayant pas la nationalité américaine, il s'est vu refuser l'accès au traitement. C'est pas une petite fille du Colorado. Bref, il y a une erreur là. Je n'ai pas trop compris, mais. Je comprends pas cette partie-là. Mais bon, voilà, juste pour vous dire qu'il y avait le cas de Charlotte, cette petite fille du Colorado. Il y a un autre enfant au Canada aussi. Donc là, oui, c'est oui, pas parlé. Mais...
La Charlotte, d'ailleurs, je crois que c'est une autre épilepsie. C'est encore un autre nom. Ouais, J'avais vu un reportage ouais. À un moment. Donc j'ai vu, mais il en fait juste référence parce que ouais. Pour lui, il a essayé aussi d'avoir accès à cette huile qu'il n'a pas eu. Mais bon, c'est ouais. Un petit peu en relation. Mais... Voilà, donc non, c'est un article un peu marrant. Puis à la fin, ils essaient de conclure sur tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc ils rappellent l'Uruguay et ils rappellent le Chili, qui a aussi fait un pas vers la dépénalisation en juillet. Qui, en autorisant donc la culture à usage personnel ou thérapeutique. Voilà, et il rappelle aussi que l'ancien président
Vicente Fox du Mexique
voilà,
s'est exprimé en faveur de la légalisation.
Plusieurs fois d'ailleurs, hein, dans le cadre de l'ONU, ouais. Etc. Ou d'ailleurs, ça devrait avancer aussi. Ouais. Pas, on va voir.
Voilà, et donc pour finir cette petite page cannabis thérapeutique, on va aller jusqu'au bout. Hein.
Ouais, ouais,
on
ouais,
va aller au Canada. Le gouvernement canadien est plutôt favorable à la fermeture des centres médicaux distribuant du cannabis thérapeutique, mais la ville de Vancouver résiste. Et le responsable de la police de Vancouver a tout simplement dit que ils n'avaient pas trop envie de perdre du temps à aller fermer des pharmacies entre guillemets qui distribuent du cannabis thérapeutique. Voilà, ils n'ont pas trop envie de dépenser de l'argent à faire ça. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle quand même. Même si quand même les autorités officielles du Canada estiment qu'il faut fermer ces dispensaires. À travers tout le pays et aussi à Vancouver, mais le conseil municipal de Vancouver avait approuvé au mois de juin de nouveaux règlements pour accorder des permis au comptoir de marijuana. Voilà, donc ça avait mis l'huile sur le feu dans les relations entre la ville et la ministre de la Santé qui disait que non, il fallait fermer ces comptoirs qui sont illégaux et que le gouvernement était déterminé à les fermer. Et voilà, et la ville de Vancouver donc résiste et ne les fermera pas. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, l'Australie.
Enfin, ouais, l'Australie.
L'Australie,
ouais. Alors là, c'est
un
comité multiparti, donc ça change un peu. C'est des sénateurs, donc australiens, qui travaillent pour la légalisation du cannabis médical, avec un projet de loi pour réguler le cannabis médical. Voilà, ils veulent essayer de faire passer ça avant la fin de l'année, donc on vous en reparlera sans doute. Et donc, évidemment, il y a les pour, hein, qui sont ravis de tout ça, et qui travaillent d'arrache-pied, et qui trouvent ça normal. Voilà, comme nous, un peu. Et puis, évidemment, ceux qui s'y opposent... comme la secrétaire du ministre de la Santé actuelle, a priori, au Mexique, en Australie. qui elle raconte un truc assez marrant, que ça entraînerait des risques de fractures réglementaires, des chevauchements de lois et un manque de clarté sur l'exercice de la juridiction par les agences officielles et de possibles incohérences avec d'autres lois existantes. Je trouve que c'est un beau charabia.
Je veux rien dire ce truc.
Ah non, c'est très... C'est très justement très très légaliste.
Ouais, très légaliste.
La loi est la loi et que voilà, ça sera des interférences avec les autres lois. Il y a un problème quoi. Syntaxe erreur.
Cours. Par contre, que des gens souffrent parce qu'ils n'ont pas de cannabis thérapeutique, ça on s'en fout complètement.
Voilà.
Bon, mais en tout cas, ils avancent en Australie.
Ils avancent et puis il y en a qui se disent, ben ça quand même rapporterait peut-être des finances, peut-être des millions voire des milliards pour l'économie australienne.
Voilà, donc on referme cette page cannabis thérapeutique et avant d'aller un peu plus loin, voilà, on va s'écouter un peu de musique. À tout de suite.
Et on écoute précisément un élève 3 avec le morceau Écotropique.
On continue, on va aller faire un tout petit tour en Suisse pour parler un petit peu de ce qui se passe, du sort qu'on réserve aux consommateurs, aux amateurs de cannabis et notamment à ceux qui cultivent Alors on en a déjà parlé plusieurs fois en Suisse. La Suisse était quand même assez en avance jusqu'au début des années 2000. Et puis depuis le début des années 2000, de mon point de vue, dans l'article là de intitulé « Le cannabis en Suisse, la guerre entre les contre les consommateurs de cannabis », ils nous disent « La Suisse a reculé depuis 2005 ». Je pense que ça a commencé avant le recul, mais bon. On nous explique que, en tout cas en Suisse, c'est pas simple quand on est un cannabinophile. Et que même si, j'hésite quand même pas à dire que la situation est pire en France, en tout cas en Suisse, c'est pas pratique, c'est pas facile de se procurer du cannabis. Et c'est toujours pareil, hein, c'est toujours les plus fragiles qui galèrent, et notamment ceux qui sont malades et qui ont besoin de cannabis médical et qui cultivent, qui veulent cultiver chez eux leurs propres médicaments. La police mène une véritable guerre contre les cultivateurs qui se procurent des graines chez des grainetiers ou chez des amis ou notamment sur Internet. Donc ça pose tellement problème finalement que en Suisse, hein, que même les fabricants de graines, un certain nombre de fabricants de graines refusent de vendre des graines sur Internet à des Suisses. Ce qui n'est même pas le cas en France. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de gens en France qui ont, on a pu entendre des témoignages, hein, qui se procurent des graines sur Internet. Mais en tout cas, si vous êtes Suisse, c'est aujourd'hui, certains grainetiers refusent de vous vendre des graines. Voilà. Donc la situation est quand même assez délicate. Alors après, il y a un point positif, c'est que cet acharnement contre les fumeurs de cannabis, ça provoque une réaction chez les citoyens suisses qui n'hésitent pas à le faire savoir par le biais de sondages et notamment une enquête donc publiée par 20minutes.ch en février dernier a montré que 80% des lecteurs de 20 minutes étaient en faveur de la légalisation du cannabis. 80%, c'est énorme. Et dans la fin de l'article de Silent Jay, celui qui écrit pour Sensicide, après la débâcle de cette année, une enquête moins formelle est en cours et elle laisse entrevoir des résultats similaires. Donc ça semble vouloir dire que de plus en plus de Suisses sont favorables à un changement de politique ou à une légalisation. On sait que dans certaines villes, il y a des conseils municipaux regroupant différentes personnes issues des mouvements de la gauche, on va dire, se bagarrent et veulent faire avancer les choses pour qu'il puisse y avoir des cannabis social club ou bref, des dispositifs un peu plus légaux permettant aux Suisses de se tout s'auto-produire ou d'avoir du cannabis.
Tout à fait, il y a deux mouvements très antagonistes en Suisse. Un du côté des villes, plutôt des mairies qui veulent une légalisation, et plutôt des grosses municipalités, ouais. Et dans les campagnes, plutôt un mouvement un petit peu inverse.
Voilà. Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Suisse, il y a l'UDC. L'UDC, c'est un mélange du MP, les Républicains et du Front National, on va dire ça comme ça, qui est un mouvement politique de droite dur, oui. Très puissant, et qui est particulièrement puissant en Suisse alémanique, mais pas que. Voilà.
Voilà, on va pas s'éterniser sur la Suisse, on va aller faire un petit tour sur ce qui se passe aux États-Unis.
Toujours et encore.
Ouais, il y a plein de choses, puis ça vient de tous les côtés, c'est assez drôle. Hein,
c'est sûr que vu ce qui se passe là-bas...
Ça se passe du côté des basketteurs. La NBA doit-elle autoriser l'usage de la marijuana? C'est comme ça que pose l'article.
Un article qui nous vient pas de Newsweek, mais de Newsweed.
De Newsweed, d'accord. Voilà. Donc là, c'est juste une petite brève. Hein,
Ça
part d'une brève. Hein,
c'est un joueur d'Oklahoma City. Ouais.
Voilà, Kevin Durant,
oui. Bon.
Voilà, qui a fait tomber une petite boîte pleine de cannabis.
En sortant de boîte de nuit.
Alors, cannabis thérapeutique, est-ce que c'était lui? Est-ce que c'était quelqu'un d'autre? En tout cas, la rumeur est partie.
En tout cas, il a fait ses tombées, puis il y a un paparazzi qui a fait « Oh, mais quelqu'un vient de faire tomber sa weed !» Et c'était le fameux Kevin Durant, une star de la NBA qui touche plusieurs millions de dollars par saison. Et donc... dans l'article, là, je sais pas, t'as vu, il nous parle d'un Français, là, d'un joueur de foot, là, Karim Benzema, qui a écumé les clubs de New York avec Rihanna. Et ça laisse sous-entendre que...
Qu'il prenait pas mal de...
Que dans ces milieux-là, avec toutes ces personnes, on consomme des trucs, quoi. Bon, bref, voilà, donc là, on parle de Kevin Durant.
Voilà, qui a fait parler de lui, quoi. Et puis sinon, bon, donc justement, il y a des séries télévisées, quoi, ou c'est très sérieux en plus le basket aux États-Unis, donc il y a des chaînes spécialisées, donc il y a eu beaucoup de discussions, y compris là-bas, parce qu'il faut bien meubler, pour savoir s'il fallait légaliser ou pas le cannabis, voilà, parce que c'était un peu absurde, et surtout qu'il y avait des gens qui avaient eu des suspensions de 5 matchs, alors que bon, le cannabis, on sait, reste longtemps dans le sang.
Alors, par le passé, les ligues de sport américaines, les ligues de sport professionnelles américaines ont régulièrement sanctionné et suspendu des sportifs, des joueurs, qui avaient été convaincus d'usage de cocaïne, par exemple. Il y a eu quand même plusieurs cas ces 20 dernières années. Pour ce qui est du cannabis, bon, c'est pareil, mais c'est un peu différent, je ne sais pas comment dire. En tout cas, il y en a qui ont des prescriptions médicales pour avoir du cannabis thérapeutique. Donc, bon, selon l'article, là, dans certains témoignages, dit bon, bah, qu'est-ce qu'on va, on va pas l'empêcher de consommer un médicament, finalement. Hein. Mais en tout cas, la question se pose, forcément, puisqu'il y a quand même deux États qui ont légalisé. Et dans ces deux États, il y a eu une franchise et de basket, et de foot, et de hockey, et de baseball.
Oui, d'ailleurs, trois États. Hein.
Trois États, oui.
Alaska, Colorado et l'État de Washington.
Alors en Alaska, il n'y a pas de franchise par contre, de sport, à ma connaissance.
D'accord, mais en tout cas, c'est vrai, c'est pour le Colorado.
Pour le Colorado et Washington, oui.
Et l'État de Washington.
Et puis il y a d'autres États où c'est légal pour le thérapeutique. Et là, il y a des joueurs aussi qui peuvent se procurer...
Et on rappelle aussi qu'il y a 20 États qui autorisent l'usage médical. Quand
voilà,
même
20 États, c'est pas qu'un seul.
Ça fait pas mal aussi. Donc bon, c'est vrai que ça risque de bouger. Et donc, ça c'est au niveau donc, du basket. Et pareil aussi, on le voit du côté, donc c'est un autre article hein, qui vient du monde.fr, hein, cette fois, c'est sur les campus, où on remarque que les étudiants américains sont de plus en plus accros au cannabis et qu'on devrait atteindre les 6% en 2015 aux États-Unis d'utilisateurs, donc très réguliers. Donc avant, ce n'était qu'à 3,5% en 2007, donc ça aurait bien augmenté. Et sinon, ça rattraperait les années 80, où il y en avait beaucoup plus, donc 7,2%. Donc on atteindrait de nouveau ce pic. Il y aurait eu une baisse donc, aux États-Unis où... Voilà, où fumer n'était pas bien, ou en tout cas où il y aurait eu une réduction, une diminution, et ça remonte comme dans la fin des années 80. Est-ce que c'est un monde, ça montre aussi que la légalisation réatteint les 5% en moyenne, comme un peu partout, et que ça arrive à avancer aussi aux États-Unis?
Ouais, alors, il faut prendre un peu avec précaution ces chiffres. Voilà, tout simplement parce que ça pourrait être interprété comme le fait que, ben, parce que maintenant c'est légal dans certains États, il y a beaucoup plus de gens qui fument du cannabis. C'est une façon de voir. Ou alors, on peut voir ça complètement autrement. C'est-à-dire, c'était tellement interdit, stigmatisé, culpabilisé, diabolisé, qu'il y avait autant de consommateurs qu'aujourd'hui, mais il y avait une tendance à la sous-déclaration.
Nous sommes bien d'accord. Hein, voilà. Non, c'est un truc que je regrette dans le Nouvel Obs, on est loin des 5% réels, à mon avis, en France, d'utilisateurs, et ils en comptent beaucoup moins.
Oui. Du coup,
toujours un des problèmes. Bon. Sinon, donc, pour finir aussi sur les États-Unis, on a parlé des trois États, mais il y en a eu aussi un quatrième cet été, puisqu'il y a l'Oregon.
L'Oregon cet été, oui.
Voilà, qui est devenu le quatrième État dont on n'a pas encore parlé, donc ça va être encore... Donc ça avance...
Attends, alors, du coup là je me retrouve...
Assez vite quand même aux États-Unis.
J'ai perdu moi-même l'Oregon pour le thérapeutique ?
Non, pour l'usage récréatif.
D'accord, c'est marrant, j'avais pas...
T'avais zappé cette petite info qui est passée cet été. Ouais. Et donc ça... Et donc la ville de Washington par contre, là-bas aussi, on en a parlé déjà avant l'été... Puisque là, c'est un référendum local qui a autorisé l'utilisation du cannabis.
Dans la ville.
Dans la ville, dans la ville, voilà. Donc là, c'est un grand article du Monde.fr, on vous en a déjà parlé la semaine dernière, il y a eu 4-5 articles de fond dans le Monde Festival cet été, a priori. Et donc, voilà, donc c'est le cinquième. Donc on vous rappelle, hein, pour ceux qui ont bien tout compris, l'Alaska, le Colorado, l'État de Washington, l'Oregon, plus la ville de Washington. Donc ils ont parlé, ils parlent de quoi, c'est un grand article, on va essayer d'aller vite dessus, hein, ils parlent surtout de deux personnalités qui sont montées en exergue. Adam Heidinger, 41 ans, donc qui a beaucoup milité pour le 420, c'est comme ça qu'il s'est fait connaître.
Le 420, oui.
Le 420. Alors, expliquons très rapidement ce que c'est le 420. C'est aux États-Unis, donc c'est une initiative d'origine populaire. D'initiative populaire, il fallait 25 000 signatures, il en a eu 57 000 en pas longtemps sur le net. Et donc à partir de là, il a été connu, il a déposé donc cet amendement qui était le 420. Donc il roule avec une voiture dont la plaque est 420. Il est très fier, très connu, applaudi. Et donc maintenant, tout le monde peut. Donc chaque résident âgé de 21 ans peut faire pousser chez lui 6 pieds de cannabis avec un maximum de 12 par foyer. Et stocker l'intégralité de sa récolte si le bon jardinier, cela peut représenter plusieurs kilos de fleurs de marijuana et qui peut le consommer à volonté à condition de rester dans un cadre privé. Il n'a pas le droit de la vendre, mais il peut en faire cadeau à n'importe quel adulte. Hors de chez lui, il peut en transporter jusqu'à 2 onces, c'est-à-dire 56 grammes, pour aller où il veut dans le district. Voilà. Mais attention, il y a quand même une exception qui est de taille. C'est que là-bas, à Washington, c'est le gouvernement fédéral qui a quand même beaucoup, une grande partie de la ville, hein, puisque c'est la capitale, et que le gouvernement fédéral a toujours interdit toujours la marijuana. Et donc, du coup, il y a quasiment un cinquième de la ville où on ne peut pas aller, hein, où il y a en particulier les parcs et toutes les zones où il y a les monuments politiques. Voilà, donc il nous parle un petit peu de cette situation complexe. Il nous parle aussi d'une autre personne qui a beaucoup milité à Washington pour la légalisation, c'est Brandon Wyatt, donc qui lui a travaillé sur le Normal, une organisation nationale pour la réforme des lois sur la marijuana.
Le fameux Normal.
Le fameux Normal. Voilà, qui a essayé de s'implanter à Lyon, et en France d'ailleurs. Ouais. Donc voilà ce qu'on peut dire
encore,
sur ça.
Ça n'a encore pas vraiment marché. Bref, ça
voilà. Mais en tout cas, le Brandon Wyatt est intéressant. Donc lui, c'est un vétéran. Donc il a cette chose patriotique. Et donc lui, il l'a utilisé surtout pour le cannabis et ses usages post-traumatiques. Hein. Et c'est comme ça que la plupart des jeunes Américains qui reviennent de l'armée l'utilisent. Parce que... ou on les bourre de médicaments ultra puissants, ou alors ils arrivent à trouver ça. Parce qu'ils ont déraillé à cause de tout ce qu'ils ont vu ou tout ce qu'ils ont fait pendant les guerres. Et sinon, la grande phrase qui était intéressante pour lui, c'est voilà, ce qu'il dit, ce qui l'incite à se battre pour la légalisation. Cet homme, c'est un devoir patriotique. Il faut impérativement mettre fin à cette folie qu'on appelle la guerre contre la drogue. Puisque c'est comme ça qu'ils sont, hein, ces drug war, qui a vraiment aux États-Unis, c'est très dur.
War on drugs.
Oui. Bref, en tout cas, pour lui, ça détruit la vie de dizaines de milliers de jeunes. Et surtout des jeunes noirs. Et ici à Washington, avant la nouvelle loi, des centaines de gens étaient arrêtés chaque mois pour possession de cannabis. Donc, beaucoup allaient en prison, et en particulier les Noirs, puisque 90% des gens qui étaient arrêtés étaient Noirs. Comme c'est bizarre, alors que le même pourcentage de la population fume. Voilà ce qu'on peut dire. Et enfin, on revient sur Heidinger, qui, il n'y a pas longtemps, a fait un... Il a tenté plein d'autres choses, hein, aussi. Il a essayé de vouloir... Bref...
Il a lancé une campagne pour l'augmentation du salaire minimum à 15 $ de l'heure, c'est ça que tu voulais
voilà,
dire?
Voilà, non, ça c'est à la fin, ah, oui, tout à fait. Non, mais avant, voilà, il a lancé un grand mouvement, une fête patriotique au cours pour célébrer la marijuana libre. Et donc, il l'a fait dans un parc, donc forcément un endroit où c'était interdit, puisque c'était un endroit qui était tenu par le par l'observatoire, par le
un endroit où on pouvait pas fumer quoi. Enfin,
voilà, où on pouvait pas fumer puisque c'est tenu par l'État américain, comme on disait au début, et que ce n'est pas à la ville. Donc là-bas, ils ont beaucoup rigolé. Il y en a qui montraient leurs tatouages, d'autres qui sont venus avec une bannière du district de Columbia, donc l'État de Washington, où il y a trois barres noires et trois étoiles avec des fleurs de cannabis à la place des étoiles. Voilà, l'arbre à fumer, de nouveau symbole de la DC.
Du district de Columbia. Voilà.
Et donc, à cette fête, il y a aussi des démocrates qui sont venus, trois sénateurs, donc, qui sont venus apporter leur soutien et leur soutien moral, surtout, pour que ça aille bien. Et donc, voilà, ça s'est bien passé. Ils n'ont pas été interdits sur ce truc-là, a priori. Voilà, donc ouais. Les démocrates bougeraient un tout petit peu, en tout cas, certains ont favorisé l'adoption de cette loi dans l'État de Washington.
Ok. Eh bien, voilà, donc fini, on termine là-dessus pour Washington.
Alors, on se garde à la Jamaïque pour un autre jour, je pense.
Ça serait bien qu'on arrive à en parler la semaine prochaine, quand même.
Tout à fait, donc sinon, comme on arrive à la fin, je vais vous rappeler que dans le Nouvel Obs, il y avait des trucs très intéressants. Donc je vous le conseille, ça s'appelle La drogue au travail, il témoigne, cannabis, médicaments, cocaïne. Donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il parle du cannabis, l'article, quoi, il parle de toutes les drogues, donc aussi bien de la cocaïne que du cannabis.
L'alcool, les médicaments. Ouais.
Voilà, il compare un petit peu tout et il parle de quelques chiffres, alors qui sont assez bizarres, qui sont très hétérogènes, mais voilà, il rappelle que 5,6% des adultes et 3% des jeunes de 17 ans disent avoir utilisé de la cocaïne une fois dans leur vie. Bon, il y a eu 48,9 tonnes de résine et d'herbe saisies l'année dernière. On peut dire aussi que 17 millions de Français ont expérimenté le cannabis une fois dans leur vie et 1,4 million en fument régulièrement, 10 fois dans le mois. Et il rappelle que par ailleurs, 8,7 millions de Français boivent de l'alcool 3 fois par semaine. Donc, ce serait pour comparer un petit peu entre l'utilisation.
Oui, on parle quand même beaucoup, beaucoup du cannabis, mais il ne faut quand même jamais oublier que la drogue la plus consommée en France, c'est d'abord l'alcool et puis aussi le tabac. Quoi. Voilà. Avant le cannabis, bien avant. Quoi. Pas non plus.
Voilà. Non, mais c'est. Et la dernière chose, toujours dans les petits trucs en encart. Chez les plus de 25 ans, il se vend près de 3 boîtes d'anxiolytiques, d'antidépresseurs ou de somnifères par an et par français. Soit 165 millions de boîtes d'anxiolytiques. Donc voilà, il faut comparer ces chiffres, reprennent un petit peu toutes les drogues, c'est ça qui est intéressant, aussi bien les légales que les illégales. L'article est assez pondéré, donc je vous le conseille, on essaiera d'en reparler aussi. Hein.
Ouais, on essaiera aussi de parler de cet article du Monde dont j'ai pas mis dans la revue de presse aujourd'hui, un article qui parle de Pierre Kopp qui a fait une estimation du coût social de la consommation de tabac et d'alcool en France et qui a chiffré ce coût au niveau de la mortalité par exemple. Et, alors on en reparlera, un article du Monde qui je crois est sorti ce week-end ou hier. C'est assez intéressant. Pierre Kopp, qui est un économiste de la drogue, qui est un prof à l'université, qui avait participé à l'étude de Terra Nova au mois de décembre l'année dernière, le rapport Terra Nova qui prévoyait 3 scénarios de légalisation du cannabis. Terra Nova, un think tank plutôt classé à gauche, plutôt même proche du PS, et quand ils avaient rendu public leur rapport et leur étude, c'était assez comique de voir les gens du PS. Oh non, mais nous, on connaît pas ces gens, on n'a rien à voir avec eux. C'est vraiment incroyable, quoi, une hypothèse.
Voilà,
c'est pas possible.
Je crois que dans l'article, il y en a un qui dit, qui est une petite phrase qui est très intéressante, c'est de se dire la légalisation, de toute manière, elle va peut-être pas encore arriver tout de suite en France, mais elle est inéluctable.
Voilà. Alors, le Nouvel Obs.
Ça fait assez longtemps qu'on dit ça, mais bon, peut-être que ça va être vrai un jour.
De Nouvel Obs, de quand?
De de ce mois-ci, je crois, du 10 au 16 septembre.
Voilà.
C'est de cette semaine en ce moment.
Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Ça va être la fin de Cannabis Circus, l'émission du Cirque Lyon. Le Cirque Lyon que vous pouvez retrouver, vous pouvez contacter par téléphone au 06 11 53 10 07. Vous pouvez consulter notre site internet www.cirque-lyon.fr. Nous envoyer un petit mail cirque-lyon@no-log.org. Vous pouvez nous écrire un petit courrier aussi, Cirque Lyon, BP 93 043 69 605. Villeurbanne, CEDEX, toutes ces infos, toutes ces coordonnées, vous pouvez les retrouver sur notre site internet, je répète encore, www.cirque-lyon.fr. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés ce soir et de nous être fidèles. Je remercie notre ami Michel qui nous écoute avec assiduité depuis des années. Merci à lui et merci à Isabelle aussi et aux autres, à tous les canactivistes investis, engagés ou pas, qui se battent, qui réfléchissent, qui pensent autrement et qui en ont marre de cette prohibition qui voilà, nous enquiquine, mais bientôt ça va s'arrêter, mais voilà, il faut continuer à se bagarrer. Et pour se bagarrer, vous pouvez rejoindre le cirque et pour vous battre avec nous. Voilà, c'est la fin de Cannabis Circus.
On a besoin de vos idées, on a besoin de vos forces.
Merci, Matt,
pour s'innover, pour évoluer.
Merci, chasseur de son. Chasseur de son à toi. Au revoir, à la semaine prochaine.
Ciao, ciao.